Le terme « illustre inconnu » est une contradiction de mots qu'on désigne d'ailleurs par un terme technique. En effet, comment peut-on être illustre tout en étant inconnu? Eh bien, c'est tout à fait possible, et le cas pour un certain nombre d'artistes et aussi d'écrivains séculiers ou sacrés. Joël est un prophète de l'Ancien Testament et l'auteur du livre qui porte son nom, et pourtant on ignore tout de lui. Le premier verset nous apprend que son père s'appelait Petuel, un mot qui signifie « simplicité de Dieu ». Mais cet homme n'apparaît nulle part ailleurs dans les textes sacrés. Qui est cette famille et d'où sort-elle? Nous n'en savons rien. Contrairement au prophète Osée, Joël ne dit pas un mot sur lui. Il existe une douzaine de personnages de l'Ancien Testament qui ont pour nom Joël, un mot qui veut dire « l'Éternel est Dieu », mais aucun d'entre eux ne peut correspondre au prophète, auteur de ce petit livre de 73 versets seulement. Joël a exercé son ministère en Juda et probablement à Jérusalem. Quand il envisage l'avenir de son peuple, il n'a que des oracles de bénédiction. Il dit par exemple « Et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui réside en Sion, mon saint nom. Jérusalem sera un sanctuaire, et plus jamais les étrangers n'y passeront. Quant à Juda, il sera toujours habité. Jérusalem le sera d'âge en âge. » L'époque du ministère de Joël ne nous est pas indiquée, mais le contenu de sa prophétie nous permet de procéder par élimination. Joël annonce le jugement des Égyptiens et des Philistins. Or, on sait que ces derniers ont été éliminés en l'an 526 par Cambyse, qui a succédé à son père Cyrus à la tête de la Perse. Et l'année suivante, ce monarque a écrasé l'Égypte qu'il a incorporée à son empire. Joël parle aussi des Sabéens qui étaient trafiquants d'esclaves. Or, après le VIe siècle avant Jésus-Christ, cette peuplade perdit le contrôle des voies commerciales. L'oracle de Joël se situe donc avant leur perte d'influence dans la région. Quand il écrit, le temple de Jérusalem fonctionne et les murailles de la ville semblent intactes, ce qui permet de dire qu'il a vécu avant la destruction de la ville sainte par les Babyloniens au VIe siècle avant Jésus-Christ. On sait que le prophète Amos a exercé son ministère vers le milieu du VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Or, il condamne les mêmes peuples païens que Joël et pour les mêmes raisons. Ni l'un ni l'autre ne parle de l'Assyrie ou de Babylone. Par contre, Amos mentionne la menace que présente le royaume de Syrie, ce que ne fait pas Joël, qui doit donc se situer avant Amos et avant la montée en puissance des Syriens. Bien qu'il mentionne différentes catégories sociales, Joël ne fait pas référence au roi comme s'il n'existait pas. Or, Joas est monté sur le trône alors qu'il n'avait que 8 ans et qu'il était sous la protection du grand prêtre Yehosheba. Cette situation expliquerait pourquoi Joël ne parle pas du roi. Tous ces indices permettent de situer le ministère de Joël au début du 9e siècle avant Jésus-Christ. Son livre a 2 grandes parties. Dans la première, qui couvre les 2 premiers chapitres, il est question d'une invasion de sauterelles, un phénomène courant en Palestine, mais dont les conséquences sont catastrophiques pour une société entièrement orientée vers l'agriculture. Ce fléau est généralement précédé par l'absence de pluie et par le vent chaud du désert qui dessèche tout sur son passage. Puis ce même vent apporte avec lui les sauterelles qui dévorent ce qu'il peut y avoir de végétation. Finalement, le vent aride emmène les sauterelles dans la mer où elles servent de dîner aux poissons et à la faune marine. Le prophète commence son livre par décrire les ravages causés par le fléau de sauterelles dans les campagnes telles qu'il les a vues. Puis il regarde le peuple qui vient en masse au temple pour se lamenter sur cette catastrophe et qui observe un jeûne de contrition. Saisi par l'Esprit de Dieu, il met à profit l'occasion de ce grand rassemblement pour délivrer sa prophétie. Ensuite, il évoque le fléau depuis son origine et décrit son déroulement. Tout d'abord, il y a eu une sécheresse qui annonçait une catastrophe plus grave encore que Joël nomme le jour de l'Éternel. Ce jour de jugement est venu et ce fut l'invasion de sauterelles. Le prophète explique alors que cet événement est un châtiment infligé par Dieu à son peuple. Cette constatation débouche alors sur un appel à la repentance qui devra s'exprimer publiquement au cours d'une cérémonie formelle au temple. Tout porte à croire que le peuple et ses chefs ont suivi la recommandation de Joël parce que l'Éternel lui promet qu'il va débarrasser le pays des sauterelles et même compenser les dégâts qu'elles ont occasionnés. Ce fléau, à la fois naturel et surnaturel, qui a ravagé le royaume de Juda, sert de fondement à une prophétie qui concerne la fin des temps et qui s'appelle le jour de l'Éternel. Elle est évoquée dans la seconde partie du livre, qui de ce fait possède un caractère apocalyptique prononcé, qu'on retrouve chez le prophète Ézéchiel et l'apôtre Jean. Cette seconde partie du livre de Joël se divise en trois sections introduites chacune par une remarque d'ordre temporel. Dans la première section, Joël annonce une telle abondance du don de l'Esprit que tous les membres du peuple de Dieu deviendront prophètes et ils échapperont au jour de jugement final en invoquant l'Éternel. La deuxième section annonce le châtiment de toutes les nations du monde alors qu'elles s'unissent pour lancer une ultime attaque contre Israël. Mais cette guerre tourne court et les nations se retrouvent à la cour d'assises suprême devant l'Éternel, le juge, qui prononce contre elles son verdict et charge ses armées célestes de l'exécuter. Dans la troisième section, la venue de l'Esprit est à nouveau annoncée mais sous forme d'une métaphore. Il s'agit d'une source qui jaillit du temple et qui d'une part purifie le peuple de Dieu et d'autre part étend la sainteté du temple au pays alentour. Les deux parties du livre que je viens de survoler ont de nombreux points communs ou contrastés. Elles sont construites autour du thème du jour de l'Éternel qui est appelé grand et terrible. Dans les deux parties, ce jour est décrit avec les mêmes images. Les ténèbres, le feu, les astres qui s'obscurcissent, les cieux et la terre qui s'ébranlent, etc. L'invasion de sauterelles que le prophète décrit au début du livre est un préliminaire, un avant-goût du jour de l'Éternel, grand et terrible. Puis il est ensuite transposé sur le mode prophétique dans la seconde partie. Alors que dans les deux premiers chapitres, l'Éternel se sert d'une armée de sauterelles pour attaquer Jérusalem et punir son peuple désobéissant. Dans la prophétie qui concerne la fin des temps, Dieu prend la défense de Jérusalem et s'oppose à une véritable armée venue attaquer Israël. Dans les deux parties du livre, le dénouement est le même. L'agresseur, que ce soit les sauterelles ou les armées hostiles à Israël, qui s'est attaqué au peuple de Dieu est anéanti par l'Éternel qui ensuite bénit son héritage par des récoltes abondantes et surtout par sa présence. Le jugement divin que vient de subir Juda lorsqu'il a été envahi par les sauterelles a été suivi d'une grande prospérité. Ces deux situations consécutives, châtiment, bénédiction, anticipent ce qui se passera à la fin des temps et que les Écritures appellent le jour de l'Éternel. Ce jour commence par la nuit, par les ténèbres, par un jugement sans précédent qui frappe la terre entière. Puis il est suivi par les bénédictions du millénium pour le peuple de Dieu. Le jour de l'Éternel est une expression un peu technique. Il commencera au moment de l'enlèvement de l'Église universelle et se terminera à la fin des 1000 ans de règne du Christ lorsque la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront créés. Ce jour est appelé grand et terrible parce que, comme je l'ai dit, il commence par une série de châtiments divins qui vont en s'intensifiant et qui durent 7 ans, une période que les Écritures appellent la tribulation. Ces jugements sont suivis du retour en gloire de Jésus-Christ qui instaure son règne de 1000 ans sur terre. Le thème apocalyptique du jour de l'Éternel est apparu pour la première fois au 9e siècle avant Jésus-Christ avec le prophète Abdias, le premier à mettre ses prédictions par écrit. Il n'a exercé son ministère que pendant quelques mois, sous les règnes de Joram, roi de Juda, et de Jéroboam II, roi d'Israël Nord, et après le sac de Jérusalem par les Philistins, les Arabes et les Édomites. C'est justement à l'occasion de l'annonce d'un jugement contre Édom, à cause de sa participation à l'attaque de Jérusalem, qu'Abdias reçoit la vision prophétique du jour de l'Éternel. Quant à la fin des temps, Dieu réglera ses comptes avec l'humanité. Joël, qui cite un passage du livre d'Abdias, est donc le second prophète à parler du jour de l'Éternel, et si j'ai bien compté, il le mentionne au moins 5 fois. Amos, dont le ministère prophétique suivra celui de Joël, mentionne également le jour de l'Éternel en reprochant au peuple de désirer sa venue, ce qui montre que c'était déjà un thème connu. Le jour de l'Éternel sera également évoqué par la plupart des prophètes de l'Ancien Testament, comme Ésaïe, Jérémie, Sophonie, Ézéchiel, Daniel, Zacharie et Malachie. Une invasion de sauterelles est peut-être un événement banal dans les livres d'histoire et de géographie, mais c'est une catastrophe pour ceux qui la subissent. Une des particularités de la prophétie de Joël est qu'il se sert de ce fléau qui frappe le royaume de Juda comme tremplin. Le jour où Dieu a jugé son peuple est transposé sur le plan eschatologique pour évoquer le jour de l'Éternel qui sera universel, grand et terrible. Tout au long de l'histoire, il y a eu des jours de l'Éternel, c'est-à-dire des temps de jugement aussi bien contre Israël que contre les nations païennes qui lui étaient hostiles. Ces jours sont des préludes et des anticipations au grand jour de l'Éternel de la fin des temps qui sera final, définitif et concernera toute l'humanité. Dans les Écritures, le jour de l'Éternel est souvent présenté comme imminent, comme proche, mais cela ne veut pas dire qu'il aura lieu demain, car cette façon de le décrire sert plutôt à souligner le caractère inéluctable de ce jugement de Dieu, même s'il est encore loin dans l'avenir. En tant que prophète, Joël a considéré une catastrophe qui était naturelle, mais aussi surnaturelle, puisqu'elle avait son origine dans un jugement de Dieu, et lui a donné une interprétation immédiate et une autre loin dans le temps. C'est le propre de la vision prophétique. Amos aussi interprète des fléaux ponctuels en châtiment divin, puis il entrevoit de nouveaux jugements dans l'avenir. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean déclare que les catastrophes naturelles qu'il annonce sont des jugements de Dieu sur le monde en rébellion contre lui et qu'ils seront suivis par d'autres et d'autres encore. Dans les exemples que j'ai cités, à commencer par Joël, nous savons que les fléaux sont d'origine divine parce que les Écritures le disent, mais c'est exceptionnel. Jésus a mis sa génération en garde contre l'idée qu'il existe toujours un lien causal entre les malheurs et les fautes particulières de ceux qu'il frappe. Il mentionne 2 incidents. Le gouverneur Pilate qui a fait massacrer des Galiléens pendant qu'ils offraient leur sacrifice et 18 personnes qui ont été tuées quand la tour de Siloé s'est effondrée sur elles. Puis il demande à ses disciples si ces personnes étaient plus coupables que les autres et il ajoute « Non, je vous le dis, mais vous aussi, si vous ne changez pas, vous périrez tous ». On peut dire que toutes les catastrophes, dans ma vie ou dans le monde, sont des manifestations de la malédiction que Dieu a prononcée contre l'humanité pécheresse, mais il n'y a pas forcément un lien, cause-effet, entre les victimes et le malheur qui les frappe. Un jeune est en train de mourir. Je voudrais bien comprendre et que les choses soient claires. J'aimerais que tout soit blanc ou noir. Et pouvoir dire que c'est parce que ceci ou cela, eh bien non, Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison évidente et je dois accepter le gris. Il faut considérer toutes les catastrophes, que ce soit un accident de voiture ou un tremblement de terre, comme une occasion de se remettre en question devant Dieu et une invitation à la repentance. Même s'il est bien rare que les hommes adoptent cette perspective quand une tuile leur tombe sur la tête. Pour Joël, comme pour tous les prophètes, l'histoire de l'humanité s'achemine vers un but qui donne son sens au présent, et c'est l'Éternel qui en est le maître. Je sais bien que j'ai déjà dit plusieurs fois qu'en ce bas monde, c'est Satan qui est le prince et qu'à ce titre, c'est lui qui mène le bal. Mais c'est une apparence seulement, car en réalité, sur l'échiquier de l'univers, il est peut-être le roi, mais un simple pion entre les doigts du Tout-Puissant. Le livre de Joël ne se distingue pas par la prophétie concernant le jour de l'Éternel, puisque ce n'est pas une nouvelle révélation. Ce qui lui est spécifique est l'annonce d'une manifestation sans précédent du Saint-Esprit et de son action purificatrice. Ce thème sera repris et développé par plusieurs autres prophètes. Le trait le plus original de Joël est sa vision de la fonction prophétique qui sera un jour étendue à tous les membres du peuple de Dieu. Cette éventualité avait déjà été envisagée par Moïse quand il a dit à Josué, son aide-de-camp, que l'Éternel accorde son esprit à tous les membres de son peuple pour qu'ils deviennent tous des prophètes. Joël a entrevu l'avènement d'une ère nouvelle et différente de l'économie ancienne qui est, selon la lettre qui a vieilli, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul concernant la loi de Moïse. Joël n'a certes pas utilisé le vocabulaire de ses successeurs comme la nouvelle création chez Ésaïe ou la nouvelle alliance chez Jérémie ou Ézéchiel, mais il a vu l'effusion du Saint-Esprit. Alors que sous l'Ancienne Alliance, seuls quelques individus privilégiés recevaient l'Esprit, un jour tous les membres du peuple de Dieu, à commencer par un petit reste israélite, seront baptisés du Saint-Esprit et deviendront prophètes. Le salut sera alors accordé à tous ceux qui, personnellement, invoqueront l'Éternel. La nouvelle alliance en Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie de Joël du don de l'Esprit accordé à tous les croyants. Pour Joël, le plus grand bien de l'homme est la présence de l'Éternel parmi les siens, ce qui se comprend puisque Dieu est la source de la vie. Il s'ensuit que la conséquence la plus grave de l'invasion des sauterelles n'est pas les dégâts qu'elles causaient, mais la cessation du culte, une situation qui ratifiait la rupture entre le peuple et son Dieu. Le Nouveau Testament continue le thème du jour de l'Éternel qui devient le jour du Seigneur et sert à évoquer le retour glorieux du Christ à la fin de la grande tribulation, c'est-à-dire la seconde partie des 7 ans de tribulation. Ce sera un temps de jugement sans précédent avec Jésus pour juge de toute la terre. L'oracle de Joël concernant l'effusion du Saint-Esprit est cité par l'apôtre Pierre à la Pentecôte parce que les événements qui l'ont marqué étaient le début de son accomplissement. L'apôtre Paul cite la fin de ce même oracle pour montrer que le salut est accessible à tous ceux qui invoquent le Seigneur, qu'ils soient juifs ou païens. En outre, Paul remplace l'Éternel par Jésus-Christ. Le thème de la présence permanente de Dieu au milieu de son peuple trouve son accomplissement spirituel en Jésus-Christ, mais s'accomplira plus complètement pendant le millénium et surtout sur la nouvelle terre. Dans l'Apocalypse, l'apôtre Jean utilise plusieurs images du livre de Joël. Le déchaînement des forces de l'abîme rappelle la description de l'invasion de sauterelles de Joël. Le jugement final, selon Jean, reprend l'image de la moisson et de la vendange de Joël. Le rassemblement de toutes les nations et leur jugement final apparaît plusieurs fois dans l'Apocalypse. Enfin, la source jaillissant du temple fait partie de la description du royaume des cieux quand le Créateur rétablira toutes choses aux normes divines.